Il y a d'une part une réelle soif spirituelle, y compris dans la jeunesse occidentale, qui cherche d'autres valeurs que le bien-être matériel ou la réussite économique, mais également dans d'autres régions du monde où on voit des églises qui sont très fortes, très, très vivantes, qui se développent très rapidement, tout en étant actuellement fortement minoritaires. Je pense au Vietnam ou à la Chine ou même certaines régions d'Afrique. Je pense que l'évangélisation en Occident a été rendue difficile par le mouvement de sécularisation qui est très lié à la modernité, en particulier sur le rôle que la modernité a donné à la raison scientifique puis à la raison tout court, comme en quelque sorte dernière instance, je dirais, de l'éthique ou de la définition des règles de la vie en commun. Ce que je constate, c'est qu'au XXe siècle également, et en particulier pendant la première moitié du XXe siècle, il y a eu un très très grand développement scientifique qui a remis en question, pour une très large part, la vision moderne de l'univers et la vision moderne de l'homme. Et quand le paradigme scientifique change, que la vision de l'homme et du monde change, également c'est une vision de la société qui évolue, et je pense que cette vision postmoderne qui est en train de se mettre en place offre de nouvelles perspectives, je dirais, au discours chrétien sur l'homme et sur la création.
Alors justement, vous avez parlé d'une soif spirituelle de la part des jeunes occidentaux. Comment l'Église peut-elle y répondre et donc par quels moyens doit-elle dialoguer aujourd'hui ?
Je crois qu'il est important pour l'Église d'être à l'écoute de cette demande, de l'entendre et puis d'offrir des chemins d'accès à Dieu, car une expérience spirituelle est en fait l'expérience d'une relation entre deux personnes, un être humain et Dieu, et pour nos chrétiens, en particulier le Christ.
Alors selon vous, les laïcs sont les principaux acteurs de l'évangélisation de proximité ? Leurs actions ne sont-elles pas aussi en étroite relation avec les membres du clergé ?
Quand on regarde l'histoire de l'Église, il y a de grandes figures, des grands missionnaires, à commencer par saint Paul et bien d'autres autour de lui et au cours des siècles. Mais il y a eu effectivement ce travail, je dirais, de voisinage tout au long de l'histoire, dans l'Empire romain, mais également après, et une évangélisation effectivement de proximité, je dirais, de voisin à voisin, souvent de voisine à voisine d'ailleurs. C'est vrai que l'Église est une communauté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition, je dirais, entre le travail fait par certains grands missionnaires et puis ce travail de proximité fait par des laïcs, et qu'il y a un besoin d'intense collaboration au sein des communautés chrétiennes. Mais c'est vrai que l'Église est un corps, et qu'un corps, comme le fait remarquer saint Paul, est riche de sa diversité, a des membres et des dons de l'Esprit qui sont divers. Et c'est en mettant en œuvre tous ces dons qui se complètent les uns les autres que le corps tout entier peut avancer.
Alors pour revenir encore une fois à la nouvelle évangélisation, quelles sont pour vous les perspectives de cette nouvelle évangélisation ?
Alors je pense que d'abord ce sont les perspectives ouvertes par le Concile Vatican II, perspectives de dialogue, d'ouverture au monde, ce regard positif, je dirais, qui reconnaît que le monde a été créé par Dieu. Dieu vit cela et vit que cela était bon. Et je pense que la première chose est d'avoir un regard a priori positif sur le monde qui nous entoure, sans nous cacher évidemment les problèmes, les faiblesses et tout ce qui assombrit cette perspective. Mais fondamentalement, c'est une perspective positive. Et le Concile engage l'Église, je dirais, dans un dialogue œcuménique, et l'unité de l'Église est primordiale. Les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean nous le rappellent, hein, c'est... Cette unité est fondamentale pour l'évangélisation de demain. Également, le dialogue interreligieux est important. Il n'y a pas de concurrence, je dirais, institutionnelle entre les religions, mais un dialogue nécessaire dans le respect mutuel. Pour les chrétiens, la foi est de l'ordre de la liberté, mais pas de la contrainte. Et c'est cette liberté-là qui doit s'engager, et qui peut s'engager, mais chacun, je dirais, utilise sa liberté comme il l'entend. Et donc l'Église a sa voix, je dirais, dans le débat public, et c'est de cette manière-là qu'elle peut annoncer la parole, l'Évangile et la bonne nouvelle. Mais encore faut-il que cette bonne nouvelle soit perçue comme telle par les gens qui l'entendent.